France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Pénélope Le Moguen. Une émission réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Dali Yard. C'est le deuxième épisode de notre série sur les peuples kurdes face aux États. Nous évoquions hier l'intégration des Kurdes syriens à l'État, à Damas. Intégration entérinée vendredi après des mois de négociations. Aujourd'hui en Iran, les Kurdes en première ligne des révoltes.
Dans les précédentes protestations, on parlait de liberté. Le message était clair, comme avec « femme, vie, liberté ». L'enjeu, c'était la femme et la liberté. Et les Kurdes étaient tout à fait engagés dans ce mouvement. C'était la raison de la présence de notre peuple dans ces protestations.
Le slogan « femme, vie, liberté » est né au Kurdistan. Après qu'il se soit répandu dans les régions kurdes, il a inondé les villes perses et fait le tour du monde.
J'ai été obligé de quitter l'Iran, car je faisais de la politique. Je rêvais d'un Kurdistan libre et démocratique, débarrassé du régime de Téhéran.
À la fin du mois de décembre, quand les commerçants du Grand Bazar de Téhéran lançaient leur première grève, les partis politiques kurdes aussi appelaient à la mobilisation depuis le nord-ouest du pays. Mais contrairement aux manifestants de la capitale, que les gardiens de la révolution ont épargné quelques jours avant de fondre sur eux dans un bain de sang, les manifestants du Rojhelat, c'est ainsi qu'on nomme le Kurdistan iranien, ont été immédiatement réprimés. Les forces de sécurité, conscientes que les regards étaient tournés vers Téhéran, ne se sont pas gênés pour tirer d'emblée à balles réelles et sont même allés attaquer et traquer les manifestants dans un hôpital pour arrêter les blessés. Sous leurs pansements, le sang n'avait pas fini de sécher. En 2022, déjà, la répression avait été sanglante dans le Rojhelat. Des manifestations contre la mort de Mahsa Jina Amini, cette jeune femme descendue en famille des montagnes kurdes pour visiter la capitale et qui sera arrêtée, tabassée, tuée pour avoir mal ajusté son voile. Les funérailles dans sa ville d'origine furent suivies par un cortège infini et par la demande explicite et furieuse de liberté, de respect des femmes, d'une vie digne. L'indépendance du Kurdistan, en revanche, n'est pas à l'ordre du jour, contrairement à ce que la République islamique essaie de faire croire pour mieux justifier son intransigeance. Comment l'État iranien a-t-il organisé la marginalisation des 10 à 12 millions de Kurdes sur 92 millions d'habitants au total en Iran ? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Sahar Bagheri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences économiques, chercheuse au laboratoire IRIS de l'Université Sorbonne Paris-Nord et de l'EHESS. Nous sommes également depuis ici Occitanie à Toulouse avec Sarah Guimet. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes documentariste, chercheuse indépendante en sciences politiques et sociologie et vous avez réalisé avec l'anthropologue Leïla Porcher le film « Je n'ai plus peur de la nuit ». Vous y suiviez deux femmes kurdes dans un campement du parti Komala qu'elles ont rejoint dans les montagnes entre l'Irak et l'Iran. Nous en parlerons également sans doute avec vous d'elles, des nouvelles ainsi que d'autres Iraniens et Iraniennes que vous, avec lesquelles vous échangez depuis l'Iran. Alors d'abord, Sahar Bagheri, comment les manifestations en Iran qui ont commencé le 28 décembre à Téhéran chez les commerçants de téléphonie d'Aledin, donc le bazar de la téléphonie mobile et de ses accessoires, quand est-ce qu'elles ont trouvé un écho dans les régions kurdes, dans le nord-ouest de l'Iran donc, et avec quelle ampleur ?
Alors, les manifestations, cette fois, en fait, le soulèvement, comme c'était à la suite d'une dégradation significative de situation économique, donc il a été aussi tout de suite repris au Kurdistan, parce que c'est une région qui est marginalisée historiquement par les différents régimes au pouvoir, régime étatique en Iran. Donc, les villes qui ont été mobilisées les gens qui sont descendus dans la rue, ils font partie des départements au Kurdistan et en Iran qui se place dans les rangs le plus discriminés sur le plan économique, le taux de chômage le plus élevé, par exemple la ville Kermanshah où les jeunes ils sont descendus dans la rue aussi, c'est la ville qui est classée au premier pour le premier taux de chômage dans le pays au niveau national. L'autre ville, c'est Ilam. Il est aussi, par exemple, toujours aussi pour le niveau de chômage, pour pauvreté et aussi le désinvestissement chronique aussi dans les classements, en fait, les classements le plus défavorables dans le pays. Et donc, le fait que les manifestations soient les contestations soient reprises au Kurdistan a un lien fortement avec la situation économique. Le fait que la situation économique est situation est disproportionnée, en fait, repartie entre les régions en Iran. Donc, les différentes les populations ont manifesté. Mais le gouvernement a tout de suite réprimé les manifestants. Et ce qui a fait que les partis politiques kurdes ont fait un appel à grève générale. Et comme il y a donc une histoire, un héritage de lutte et de mobilisation au Kurdistan, donc toute la région de Rojalat a été mise en grève générale et massive pour montrer la solidarité à la fois envers les villes qui ont été réprimées et puis aussi pour changer le rythme de mobilisation parce que par le passé les partis politiques savent que le niveau de violence et de répression au Kurdistan c'est plus dur.
C'est pour ça que les partis politiques ont dit aux Kurdes du nord-ouest de l'Iran mettez-vous en grève générale plutôt que d'aller manifester parce que de toute façon l'armée, les forces de l'ordre tireront à balles réelles. Au départ donc des mots d'ordre à l'instar de ceux de Téhéran qui concerne plutôt le niveau de vie de ces régions du Kurdistan, des revendications économiques, de pouvoir d'achat, d'inflation. On sait que le Kurdistan en Iran, ce sont des régions qui sont riches en pétrole et en eau, mais avec des infrastructures qui ne bénéficient pas aux populations locales. Des barrages, par exemple, construits au Kurdistan iranien, mais l'eau est détournée vers le centre du pays. De grands projets menés à bien par des proches des gardiens de la Révolution, donc une économie clientéliste. Comment Sarah Guimet, ces revendications d'ordre économiques sont devenues ou pas des revendications d'ordre politique, la chute du régime, est-ce que ce sont des choses qu'on a entendues aussi dans ces cortèges ?
Bien sûr, pour appuyer ce que Saher disait, concernant les partis kurdes d'Iran, donc globalement on va plutôt parler des deux grands partis historiques que sont donc le PDKI, le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, et le Komala, le Comité des révolutionnaires des Kurdes d'Iran. Le PDKI à sa fondation donc en 1950 et le Komala en 1969, ces deux partis-là à l'origine qui sont d'obédience marxiste-léniniste puisqu'ils vont évoluer au fur et à mesure de leur histoire. Au départ, leurs revendications sont fondées sur des enjeux d'égalité économique et tous les deux, au moment du référendum, je fais un petit bond dans l'histoire du référendum qui va être mis en place en 1979 et qui va demander aux partis est-ce que vous voulez oui ou non l'instauration d'une république islamique en Iran. Ces deux partis vont refuser l'instauration de la république islamique et demander au contraire l'instauration d'une république démocratique, fédérale et laïque. Et j'insiste bien sur le laïque puisque la revendication d'une égalité économique entre les différentes classes sociales en Iran, d'égalité des genres et de laïcité, c'est-à-dire le respect de l'ensemble des cultes en Iran, sont des revendications qui sont à l'origine même de la fondation de ces deux partis kurdes.
Donc, quand en 2026, parce que pour parler pour l'instant de ce moment-là si important en Iran, de ces grandes manifestations qui ont essaimé au Kurdistan iranien, c'est un petit peu dans le sens inverse de ce qui s'était passé en 2022-2023. En 2022, les manifestations pour Femmes, Vie, Liberté étaient parties du Kurdistan iranien, d'où était originaire d'ailleurs cette jeune femme tuée par la police. Là, on est dans un sens un peu inverse, mais est-ce que dans les cortèges on entend des revendications politiques ou pendant cette grève générale, d'ailleurs, est-ce qu'elle a été suivie le 8 janvier, l'appel de ces partis politiques kurdes à la grève générale ?
Bien sûr, depuis le départ, en fait, les revendications actuelles de 2026, elles s'inscrivent vraiment, elles sont dans une interconnexion avec la révolte dont on a entendu parler tout à l'heure en 2022 avec le slogan « Femmes, vie, liberté », puisque le Komala et le PDKI, quand...
C'est deux parties,
oui. Oui, ces deux parties-là, en fait, à partir des années 2000, vont abandonner la lutte armée contre l'Iran et plutôt travailler de fond, en élaborant des médias, des journaux, donc à travers la télévision, en travaillant des discours sur les revendications économiques, sur les appels à la grève et sur le soutien des droits des femmes. Donc en 2022, on l'a entendu tout à l'heure, ces deux parties kurdes vont être à l'origine même des revendications Femmes, Vie, Liberté, ce qui aujourd'hui aboutit à leur partie prenante dans la révolte de 2026 et du début janvier. C'est vraiment, il faut vraiment voir ça comme une continuité. Les révoltes actuelles de 2026 ne sont pas déconnectées
de cette histoire,
de ce qui s'est passé en 2022, oui, avec Mahsa Amini.
Moi, comme les gens de ma génération, on est prêt à mettre nos vies en danger. On nous dit, ma famille aussi, qu'il ne faut pas y aller. Mais si je reste chez moi, si tout le monde reste chez soi, qui va protester ? Qui va protester à notre place ? Je suis l'un des prochains manifestants. Je vais participer dès que je peux pour dire ma volonté de changement. Et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher.
Un jeune homme kurde rencontré par une équipe d'Arte Reportage et diffusé la semaine dernière dans 10 jours dans l'Iran qui résiste. Est-ce que dans tout l'Iran, que ce soit dans le Kurdistan iranien, mais aussi à Téhéran, les manifestants kurdes sont nombreux, de tous âges? Qu'est-ce qu'on peut dire, Sahar Bagheri, peut-être d'abord dans ces régions du Nord-Ouest?
Bien sûr. En fait, par rapport au nombre de décès, des morts qui ont été diffusés, donc déjà on a plus de 300 morts kurdes qui sont morts, donc dans différentes villes et majoritairement donc à Téhéran. Là, les Kurdes qui sont là, ils se sont déplacés, mobilisés pour trouver du travail.
Oui, donc c'est pour une raison économique aussi. Ils sont venus que pour manifester. Ils étaient
bien sûr, ils vivaient là-bas, ils travaillaient là-bas, ils font les études là-bas. Mais j'aimerais bien ajouter en fait un point avant de répondre à votre question sur ce qui a été dit. Je pense que là, le mouvement actuel, effectivement, les soulèvements sont en lien avec, en général, ce qu'on appelle le mouvement de renversement en Iran. Donc, si à Téhéran aussi, tout de suite, les revendications ont allé vers la chute du régime, un changement radical de régime. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le Kurdistan aussi, il a été pris. Parce que dans toutes les manifestations au Kurdistan, il y a effectivement la question d'égalité économique, de questions de gens, mais la raison principale qui mobilise les gens, c'est la cause kurde, la question nationale. Un conflit donc fondateur de crise actuelle en Iran, pour lequel les Kurdes sont les sujets importants. J'aimerais bien donc dire que vous avez dit que est-ce qu'il y avait donc des revendications contre le régime? Oui, par exemple à Sarrez, les gens ils sont descendus dans la rue avec une banderole sur laquelle ils ont écrit donc non au rapport colonial, non au régime monarchique, pour le droit de l'autodétermination du peuple kurde.
Non, un régime monarchique, c'est qu'on ne veut pas du descendant du Shah d'Iran.
Exactement.
Qui d'ailleurs, dans son programme de 170 pages, ne dit pas un mot des minorités, enfin de la construction éventuellement d'un fédéralisme qui profiterait aux Kurdes. Simplement, on peut lire, par exemple, je cite un reportage récent de Laurent Perpignan-Iban, qu'on a déjà invité dans Culture Monde. Pour Libération, il est allé dans un camp irakien du parti politico-militaire Komala, un camp perché à plus de 2000 mètres d'altitude, où il a rencontré une jeune kurde, et ce n'est pas la seule, à lui dire qu'elle a rejoint la lutte armée en 2022 quand elle a vu les assauts du régime sur une population désarmée, et de dire que elle et toutes celles et ceux avec qui aujourd'hui elle apprend à se battre, notamment dans ce camp, eh bien, tous ont été changés par les soulèvements récents de ce début d'année. Le régime a tenté de diviser le peuple, dit-elle, les Perses d'un côté, les minorités de l'autre, mais sa violence est en train de nous réunir. Est-ce que c'est aussi, Sahra Guillemets, ce que vous disent les Kurdes iraniens de votre entourage, ce que vous avez pu rencontrer à l'occasion de vos reportages? C'est-à-dire là, il n'est plus question de cause kurde. Pour l'instant, c'est vraiment l'Iran qu'il s'agit de sauver. Les Iraniens, les Iraniennes face à un régime sanglant.
Oui, tout à fait. Alors, un tout petit point pour rebondir justement sur ce que disait Sahar. En fait, les revendications économiques actuelles et ce qui conduit du coup à demander vraiment le changement de régime, il faut vraiment partir du principe que, à partir du 19e siècle, les Kurdes se sont soulevés contre les logiques impérialistes des États au Moyen-Orient. Et au Rojelat, au Kurdistan d'Iran, l'Iran a mis en place à cette époque-là des politiques de sous-développement programmées au niveau des écoles, des hôpitaux. Donc il y a une réelle paupérisation des populations kurdes pour casser les révoltes, pour casser la République de Mahabad dont Boris Diem fera le focus tout à l'heure, qui avait connu donc une autonomisation sur un plan économique et politique du Rogelat.
Ça a duré un an, 46, on en parlera
tout à l'heure. Oui, tout à fait. Toute cette dynamique-là, les partis kurdes d'Iran, donc le PDKI, le Komala, auprès desquels j'ai vécu aussi dans les camps dont vous parliez tout à l'heure, au départ, leur travail est justement de revenir conscientiser les populations pauvres du Rogelat qui sont laissées sans qui on apprend ni à lire ni à écrire, qui connaissent des situations d'une extrême pauvreté. Et donc le début de ces partis politiques là s'inscrivent au départ dans conscientiser le peuple kurde sur son histoire, sur sa langue, leur offrir un travail, puisque pour faire un bond sur les camps actuels, quand les Kurdes traversent la frontière et qu'ils décident de s'engager soit au PDKI, soit au Komala, souvent c'est qu'ils ont vu à la télévision des extraits du journal télévisé du PDKI, du Komala, proposant d'autres revendications, actuellement le changement de régime. Ils s'engagent et à l'issue de leur formation, à l'époque c'était de 6 mois en 2013, maintenant ça a été raccourci à un mois et demi, après la formation commune, vous avez le choix entre quitter les partis ou rester et choisir un métier. Et j'insiste bien là-dessus parce que c'est une différence centrale avec d'autres partis kurdes. Si vous restez dans le parti, la carrière militaire n'est pas la seule issue. Vous pouvez vous former comme journaliste et décider du coup de continuer à promouvoir l'histoire des minorités de l'Iran et des Kurdes. Vous pouvez devenir enseignant. Il y a toute cette variété de métiers puisque l'idée est d'offrir aussi une solution économique. Aujourd'hui, la revendication, elle est le changement de régime. Les Kurdes, les deux partis que sont le PDKI et le Komala, appellent les soutiens internationaux à accueillir l'entièreté des forces d'opposition en Iran pour promouvoir, pour soutenir une coalition des forces dans l'objectif de changer de régime.
Sarah
Aujourd'hui,
Bagheri.
On est vraiment sur une demande
De changement de régime. Ouais, de république.
Bien sûr. Alors, je suis d'accord sur le fait que la question économique fait partie donc, des revendications du peuple kurde parce qu'il se trouve dans une situation marginalisée. Mais je pense que la raison principale, il ne faut pas non plus aussi réduire la question kurde en Iran dans son intégralité en tant qu'une question transnationale et question du peuple sans État. Donc dans les revendications des partis politiques ou des peuples qui se mobilisent pendant le soulèvement de Femmes, Vie, Liberté ou récemment et aussi bien avant pendant la révolution 1979, il y a la question d'une demande historique, un peuple qui se présente comme un peuple, une nation donc qui demande des droits collectifs, soit au sein d'un Iran démocratique, soit sous un autre forme. Donc, je souhaite souligner le fait que donc on peut pas non plus donc déconnecter le lien entre la question, la position et le statut politique des Kurdes en Iran qui a fait qu'ils subissent aussi effectivement donc de toutes ces discriminations économiques et de droit de souveraineté économique sur leur territoire.
Alors on y reviendra si vous voulez bien, de rester pour l'instant vraiment sur cette actualité qui est si importante et si douloureuse par ailleurs, et il est en plus compliqué d'entrer dans tous les détails puisque le mouvement kurde n'est quand même pas homogène ni à l'échelle nationale en Iran ni à l'échelle transnationale. Sarah Guimet a passé 2 ans au Kurdistan turc et au Kurdistan irakien aussi près des Kurdes d'Iran, donc je pense que vous savez l'une et l'autre combien les objectifs, les organisations aussi de chacun, chacune sont différentes et que ne se rencontrent pas toujours. Néanmoins, sur ces partis kurdes d'Iran dont vous avez pris le temps, Sarah Guimet, tout à l'heure de raconter l'histoire et la diversité, même si elle est encore plus diverse que ça, ils sont au nombre de 7 aujourd'hui en Iran, ces partis kurdes. Est-ce qu'ils sont en Iran suffisamment organisés pour protéger leur population? Est-ce qu'en décembre et janvier, là, ces dernières semaines, est-ce que le Komala, le PDKI, le Parti pour une vie libre au Kurdistan ou d'autres partis qu'on ne peut pas énumérer dans leur ensemble, est-ce qu'ils ont pu mettre en place des structures, y compris secrètes, enfin clandestines, pour protéger les gens?
Alors, c'est une question complexe puisqu'on est dans le cadre donc du régime de la République islamique d'Iran qui a des moyens de surveillance parmi les plus développés et aboutis du monde, ce qui entraîne d'ailleurs les répressions que l'on connaît actuellement et l'impossibilité quand vous formulez des revendications politiques, voire associatives, tout simplement, de rester en Iran. Jusqu'il y a 2 ou 3 ans à peu près, les partis kurdes d'Iran, donc le PDK et le Komala, s'étaient réfugiés au Kurdistan irakien suite à la répression terrible à la sortie de la guerre Iran-Irak que le régime iranien avait engendré. Donc, pour répondre à votre question, la protection des populations, elle se fait sur, on va dire, 2 échelles. Une échelle depuis le Kurdistan irakien, puisque c'est là concrètement que sont implantés les partis kurdes d'Iran, et qu'ils proposent d'accueillir les populations, en les aidant à traverser la frontière notamment, avec l'aide des Kolbar, donc ces personnes qui vont traverser les montagnes, puisqu'aujourd'hui le passage ne peut se faire que à travers ces montagnes.
Les Kolbar sont des travailleurs pauvres qui transportent des marchandises de l'autre côté de la frontière.
Et là, on est vraiment dans une logique historique où on est sur des populations qui sont nomades et qui ont donc pour pratique historique, culturelle et politique de circuler dans les montagnes, quand bien même les frontières sont fermées. Il y aura toujours des réseaux clandestins qui permettront de les traverser, évidemment avec plus ou moins de surveillance et de régime de terreur par l'Iran. Et à l'intérieur de l'Iran, oui, vous allez trouver des réseaux extrêmement clandestins et organisés où, si vous êtes victime d'arrestation ou si vous souhaitez vous échapper, cette fuite, elle va être organisée. Donc on ne pourra pas trop rentrer dans les détails puisque ça expose directement les gens là-bas. C'est organisé. Je peux vous donner un exemple, en tout cas, de ce qui se pratiquait il y a encore quelques années. Pendant longtemps, lorsque les gens voulaient s'engager au PDK et au Komala, il était possible, par exemple, de rejoindre une association qui promouvait de la randonnée en montagne, et dans ce cadre-là, de discuter et de demander du coup à rentrer dans le parti.
Ah, c'était une façon de ne pas se faire repérer. Voilà. Et alors, comme les camps, j'allais dire d'entraînement, est-ce que ce sont encore des camps d'entraînement? Parce que les Kurdes d'Iran ont abandonné la lutte armée pendant quelques années, mais oui, ce sont aujourd'hui, je crois, des camps d'entraînement qui sont en Irak, aujourd'hui abritent des combattants qui tiennent les discours que l'on vient d'entendre. C'est par eux peut-être que l'Iran peut tomber, le régime, la République islamique peut tomber. C'est sans doute aussi pour ça que l'Iran a bombardé massivement des camps en Irak avec force, missiles et drones en 2022 et encore apparemment là en janvier, le 21 janvier, d'après le Parti de la Liberté du Kurdistan, le PAK, qui rapporte qu'une de ses bases en Irak a été frappée par un missile balistique en provenance d'Iran. Comment l'Iran surveille aujourd'hui sa frontière avec l'Irak, Sahar Bagheri, justement pour éviter ces passages de Kurdes d'Iran vers l'Irak? Ceci dit, on pourrait aussi se dire qu'il a intérêt à ce que ces passages se fassent, comme ça, entre guillemets, ils se débarrassent des éléments les plus critiques, mais ce n'est pas apparemment ce qui se produit.
Bien sûr, en fait, le régime, la République islamique, par rapport à l'expérience qu'il y a eu donc après la révolution de 1979 et le fait que les frontières qui ont divisé le Kurdistan, mais en même temps fourni des avantages stratégiques aux partis politiques armés, comme la mobilité transfrontalière, comme le refuge et aussi le soutien transnational. Donc il a essayé dès lors de mettre en place des mesures, des politiques ou des interventions pour contrôler, surveiller sur la mobilité et de transfrontalière de différents plans, et donc comment il le fait, par à la fois les mesures sécuritaires et aussi les interventions développementalistes que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. C'est que par la création des marchés frontaliers et des dispositifs de transit, le régime iranien essaye de contrôler ce qui se passe, les frontières et la mobilité à la frontière, à la fois donc par les mesures économiques et sécuritaires, et de l'autre côté en coopération avec l'Irak. C'est un régime, l'Irak depuis la chute de Saddam, oui bien sûr, a une très bonne relation avec l'Iran. Donc c'est par ces liens aussi, ces coopérations sécuritaires que l'Iran essaye de contrôler les frontières. Et en de ces mesures, par exemple, qu'il a eu pris, c'est l'accord sécuritaire entre l'Iran et l'Irak suite au soulèvement 2022, qui essaye de désarmer les partis politiques kurdes. Parce qu'il sait que, pour être un peu clair, pour le régime iranien, il y a 2 menaces principales sur son souveraineté. Soit, en fait, un pouvoir étranger, soit les partis politiques kurdes, parce qu'ils sont assez organisés et ils sont donc aussi armés. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place aussi des accords de sécurité pour désarmer les partis politiques kurdes et les déplacer, les éloigner de frontières de Rojalat.
Un nouvel accord qui date d'août dernier pour mieux sécuriser leurs frontières communes, dans la continuité d'un protocole de 2023 par ailleurs conclu entre Téhéran, Bagdad et Erbil, dont on parlera demain, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. C'est un accord qui prévoyait le désarmement des groupes de l'opposition kurde réfugiés en Irak, qui prévoyait aussi de les éloigner de la frontière, de les installer dans des camps supervisés par les Nations Unies. Mais pour l'instant, tout ça, c'est très très peu mis en place. Comment, Sarah Guimet, par quelles autres mesures, peut-être pour le raconter à échelle humaine aussi, l'État iranien fait-il pour sécuriser cette frontière? Est-ce qu'il rachète des terres à des agriculteurs? Est-ce qu'il fait en sorte que les échanges marchands de marchandises du quotidien, vous parlez des colbars tout à l'heure qui apportent des raisins, des pommes de l'autre côté de la frontière, ne puissent plus circuler? Enfin, comment ça se passe?
Alors, pour compléter justement ce que vient de dire Saher et pour répondre à votre question, en Iran, je l'évoquais tout à l'heure, à partir du 19e siècle, on a vraiment une systématisation de politiques de ce qu'on appelle le développement sous-programmé, c'est-à-dire que ce sont des politiques de paupérisation de la région du Kurdistan.
Le sous-développement programmé, vous voulez dire, ou le développement sous-programmé?
Le développement sous-programmé, pardon.
D'accord.
Le sous-développement programmé.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, des politiques spécifiques vont viser le Rojalat. On parle des Kurdes ici, mais je le rappelle, hein, l'Iran est un pays multiple avec énormément de minorités. Donc je n'en parle pas parce qu'on est sur les Kurdes, mais il ne faut pas oublier que toutes les minorités ont aussi été concernées par ça. Au Rojalat, les politiques de paupérisation ont vraiment touché directement la population kurde pour couper donc les vivres, la possibilité de manger, de vivre. Donc on est vraiment sur des politiques de paupérisation longues. Avec le rachat de terres agricoles, comme vous l'avez évoqué, ça a expliqué donc la collaboration avec l'Irak et les pays limitrophes. Quand on était donc dans les camps des combattants, une autre technique qui est mise en place par l'Iran, c'est directement dans le Rojalat récupérer des personnes qu'ils vont mettre en prison. Je vais vous donner l'exemple des femmes puisque je travaille auprès des femmes combattantes. En prison, donc, ce sont des pratiques de violence systématique, donc des viols, des agressions sexuelles. Les gardiens de la Révolution vont prendre en photo des images d'une femme qui va être arrêtée, vont lui faire pression sur elle en lui disant qu'elle doit se faire engager au sein du Comalaou de PDKI, passer la frontière, et en gros, travailler en tant qu'espionne. Si elle ne le fait pas, ces photos-là seront transmises à sa famille, qui, quand elle voudra revenir en Iran, risque de procéder à ce qu'on appelle à des crimes d'honneur, c'est-à-dire de l'assassiner, puisque du coup, elle aura mis en cause l'honneur de la famille. Concrètement, dans les camps, le PDKI, le Comalin, essaie de contrer, d'avoir une politique de contre-espionnage dans les camps de formation, en passant donc en produisant d'abord une formation commune au sein d'un camp qui est à côté des campements principaux où vivent les Peshmerga, donc les combattants kurdes iraniens. Donc il y a d'abord un camp qu'on peut considérer comme une sorte de laboratoire d'expérimentation où l'ensemble des personnes iraniennes qui ont passé la frontière et qui veulent rejoindre les partis sont formées pendant plusieurs mois. Ces camps-là, ils fonctionnent en huis clos. Donc ils sont ensemble, en mixité, puisque c'est l'une des revendications des partis kurdes d'Iran contre la ségrégation sexuelle systémique en Iran. Ils sont formés pendant plusieurs mois ensemble, sous la surveillance de cadres. Avant même de pouvoir rejoindre ce camp, ils passent des séries d'entretiens, s'il y a des doutes. S'ils arrivent, ce qui peut arriver, c'est ce qui nous est arrivé nous lors des terrains en 2016, il y a parfois des espions qui arrivent à passer ces entretiens de confiance et la formation commune, qui vont rester dans le campement, donner des informations sur les personnes qui rejoignent, les pratiques du camp, et risquer de faire des tentatives d'explosion, ce qui avait été le cas, et le Comalin avait pu le déjouer, d'un combattant qui était là depuis des années et qui avait mis des explosifs soudainement dans un 4x4 pour tenter de faire exploser plusieurs cadres qui se réunissaient. Donc il y a cette politique aussi d'espionnage mis en place par l'Iran.
Et une stratégie des Kurdes d'Iran installés en Irak qui a peut-être un peu changé au fil des ans. Vous nous rappeliez tout à l'heure, Sarah Guimet, qu'au départ, le combat était mené sur un plan essentiellement de l'information. Au lieu de former des combattants, on formait des journalistes, on formait des enseignants, des réalisateurs. Une stratégie d'ailleurs qui contrastait avec celle du PKK. D'où la nécessité aussi de mettre beaucoup de complexité, de nuances quand on parle des Kurdes. Néanmoins, comment expliquer que Bagri, que la lutte armée est reprise, est-ce qu'on peut la situer, 2016-2017 à peu près, est-ce que c'est à mesure que la répression contre les Kurdes se faisait de plus en plus dure, que la lutte armée a repris, comment est-ce qu'on l'explique? Parce qu'aujourd'hui, l'Iran a beau jeu de désigner les Kurdes comme des terroristes en parlant de ces camps.
Oui. Alors, pour la lutte armée... En fait, l'histoire de lutte armée, on a trois partis politiques qui ont mené la lutte armée, le Kurdistan. Donc le PDK et le Komala après la révolution 1979, qui ont dû prendre des armes pour se protéger et résister donc, face aux violences terribles de l'État iranien. Ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs j'aimerais bien dire, ce qu'on voit aujourd'hui en Iran, l'origine... Le début de cette violence systématique a été donc pratiqué au Kurdistan de manière très violente. Donc c'est pour ça que
ce sont d'ailleurs des armes aujourd'hui. Les ONG disent que les armes utilisées à Téhéran, ce sont les armes que l'armée iranienne, les forces de l'ordre utilisaient jusqu'à présent au Kurdistan, des armes semi-automatiques ou des armes de guerre,
oui.
Et qui maintenant sont utilisées contre
exactement.
Toute la population.
Exactement. Mais après, donc la lutte armée a besoin des conditions pour les partis politiques. Si je m'en réfère projet ou programme des partis politiques kurdes. Troisième parti politique qui a mené des luttes armées, c'est PEJAK, un parti qui était proche idéologiquement donc au PKK.
Parti pour une vie libre au Kurdistan.
Exactement. Donc là, ils ont mené la lutte armée dans une condition où ils étaient après la révolution, parce qu'il fallait protéger le peuple. Et pour le PEJAK, il a commencé donc à cibler les bases de gardiens de la révolution dans les régions kurdes. Mais depuis, et avec le fait qu'un calcul rationnel des partis politiques kurdes, que la lutte armée dans cette condition, dans cette situation, n'est pas possible pour ne pas augmenter le coût aussi, ou ne pas peser le coût sur la population civile, ils ne font plus. Et d'ailleurs, j'aimerais bien ajouter, dire que, par exemple, pendant le soulèvement Famille Liberté, les gens dans la rue, au Rojalad, ils sont appelés les partis politiques de descendre et nous protéger. Mais je pense qu'ils étaient assez intelligents, les partis politiques kurdes, de ne pas faire ça, parce que tout de suite, on a eu que sans aucune menace de la part des partis politiques kurdes envers le régime iranien, il a attaqué les camps des partis politiques kurdes par des missiles, qui a eu donc 26 morts tout de suite.
Et c'est bien pour ça là qu'en janvier, les partis politiques kurdes ont appelé à la grève générale plus tôt qu'aux grandes manifestations.
Exactement.
D'ailleurs, général qui a été suivi. Les habitants des villes kurdes étaient en grève, même dans ces villes et ces provinces où le chômage et la pauvreté sont très importants. Même, nous avez-vous raconté, même les marchands ambulants qui vendent leurs produits depuis de petits camions au bord des routes avaient arrêté le travail pour se joindre à ce mouvement. Alors vous situez le début de cette lutte à 1979, donc la révolution de 79 qui fait tomber le Shah d'Iran. Est-ce que toute l'histoire récente de l'Iran, comment replacer les mobilisations kurdes à partir de cette histoire-là, parce que Sarah Guimet, les Kurdes ont fait partie, au départ le mouvement kurde a été un partenaire efficace de l'ayatollah Khomeini. Pourquoi ça n'a pas duré? Pourquoi cette alliance qui s'est faite pour faire tomber la monarchie à l'époque n'a pas duré?
Alors, tout simplement parce qu'il y a eu ce référendum dont je parlais en tout début, qui a posé la question: souhaitez-vous l'instauration ou non d'une république islamique? Et le PDKI, le Komala à l'époque, ont répondu non, et ont subi directement une répression terrible, puisqu'ils se sont opposés à cette instauration de république. Quand le Komala et le PDKI ont rejoint la révolution de 79, l'objectif était de changer de régime. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, ils souhaitent plutôt une coalition de l'ensemble des forces en Iran pour changer de régime avec les minorités, plutôt que le retour du fils de l'ancien Shah. Donc en 1979, le Komala et le PDKI ont demandé, et n'ont jamais cessé de le faire, d'instaurer une république démocratique qui respecte le vote donc de l'ensemble des minorités, fédérale, qui permet d'avoir un certain degré d'autonomie dans chaque région d'Iran pour chacune des minorités, qui est un reflet donc de la situation des minorités en Iran, donc une république démocratique fédérale et laïque, puisqu'on est sur un pays qui connaît une multitude de cultes et de religions, et il est extrêmement important pour les partis kurdes d'Iran de mettre en place cette laïcité, quand bien même l'orientation religieuse est claire. Et c'est pour ça que les camps qui ont été mis en place en Irak par les partis kurdes d'Iran quand ils s'y sont réfugiés, il faut vraiment les voir comme des camps d'expérimentation sociale, politique, de leur projet politique. Dans ces camps-là, ils instaurent un modèle démocratique, fédéral et laïque, c'est-à-dire que chaque combattant et combattante peut avoir sa religion. Ce qui est demandé par contre, c'est qu'il n'y ait aucun affichage dans le parti. C'est que ça reste privé. C'est vraiment l'image de notre laïcité telle qu'on la connaît. Une forme et ils se servent de leur camp pour ça.
Une forme de laïcité et d'autres idéaux. Alors, beaucoup d'idéaux en histe que vous a listé une des chefs du Komala, Kossar Fatahi, l'un des personnages de votre film, Sarah Guimet. Beaucoup d'idéaux en histe, mais pas séparatistes. Komala, féminisme.
Le Komala est un parti qui croit au féminisme, vous comprenez? Il est social-démocrate, de gauche, fédéraliste, séculariste et féministe. Par exemple, souvent ici en formation, les apprentis pensent que le féminisme est juste le truc dont s'occupent les femmes. Mais c'est aussi ton problème en tant que peshmerga du Komala. Celui qui ne croit pas en la place des femmes ne peut pas être peshmerga.
Un extrait de votre film Sarah Guimet avec Leïla Porcher, Je n'ai plus peur de la nuit. Donc des idéaux que nous répétons et listons dans cette série depuis le départ, avec aussi des nuances à apporter. C'était le cas notamment dans l'émission d'hier sur la Syrie. Néanmoins, des Kurdes de toute façon particulièrement visés où qu'ils se trouvent en Iran, une partie importante des exécutions les concernent, les exécutions par pendaison notamment. Il y a des prisonniers kurdes qui sont enfermés depuis parfois 20-30 ans. La plus ancienne détenue politique du pays, elle-même, est kurde, etc. On pourrait faire une très longue liste pour montrer à quel point aujourd'hui les Kurdes sont particulièrement visés par la répression, mais aussi répression culturelle. Il est interdit d'enseigner la langue kurde dans les écoles, par exemple. Est-ce que le fait que le président iranien Masoud Pezeshkian soit kurde par sa mère a changé quelque chose, Sahar Bagri, ou est-ce qu'on peut espérer que ça finisse par changer quelque chose? Il ne s'est pas du tout exprimé sur la question kurde depuis qu'il a été élu.
Le moment où Masoud Pezeshkian a été donc élu, le régime iranien a dépassé dépassé la crise de légitimité qu'il y a eu pendant le mouvement vert et après la mort de Mahsajina Amini. Il est arrivé donc aux crises de souveraineté. Donc le fait que Masoud Pezeshkian sa mère est kurde, où il a été grandi. Ce que je me souviens, c'est que plutôt, il a été grandi dans une ville kurde, Mahabad, mais qu'il n'est pas kurde. Il est turc.
D'accord, je croyais que sa mère était kurde et que son père était azéri.
Il est turc, et donc il est azéri, mais il a essayé justement de parler un peu kurde parce qu'il a été grandi à Mahabad, mais ça ne change pas quelque chose radical chez les Kurdes, parce qu'ils savent que même ces petites mesures réformistes ne changent pas le rapport de pouvoir donc qui est en place en Iran. Et les peuples sans État, y compris les Kurdes, ils veulent un changement radical de ces rapports de pouvoir. Et Masoud Pezeshkian, quand il est arrivé au pouvoir, le régime était déjà dans une crise de souveraineté. Donc, peu importe qui était le président du pays, c'est un Kurde ou pas, Le régime était dans une crise systématique, donc ça ne change rien. Et la population sache que on ne peut pas manipuler donc l'opinion publique ou ce qu'ils demandent les gens par ces petites réformes dans le pouvoir, parce que dans le système étatique en Iran, parce qu'on sait que deux institutions sont importantes, soit à la fois le guide suprême et le gardien de la révolution. C'est eux qui ont monopolisé le pouvoir, donc c'est pas ça change pas grand chose si le président est un cœur de...
Et présenté comme un réformateur. Ça, encore une fois, le régime iranien se paye de mots en présentant ce président, ou lui-même d'ailleurs, en se présentant comme un réformateur, ce qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui en Iran. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous le dire aujourd'hui parmi tous les chercheurs et chercheuses qui travaillaient sur l'Iran. En tout cas, il est très très loin aujourd'hui l'idée même de république iranienne, de république kurde en Iran qui a pu exister en 46. On en parle avec Boris Jam juste après, cet artiste kurde originaire d'une petite ville de la province iranienne du Kurdistan, Hani Mojtahedi.
سوتاوی فراخ ایتر آوم بوچیا خزنداری کنجی عشق تو براوم بوچیا کم بشم شیری برو خستی دلی زارم بکا من شهیدم تیغی تازه سالم بوچیا این بابد ناوی لدن یا عشقم اثر وستی دژین زوف و چاوی توم هبه زنجیر و داوم بوچیا آم جیهان ارچول و هولو من غریب اکیم نناس اشتیمانی خونده وی دیای گلاوم بوچیا.
Hani Mojtahedi, une chanteuse kurde d'Iran, mais qui est aujourd'hui installée à Berlin. Elle a écrit cette chanson il y a deux ans, en 2023, Rouille et Tau. C'est le deuxième épisode de notre série sur les Kurdes face aux États. Aujourd'hui en Iran, où ils sont moteurs des révoltes contre le pouvoir, c'est aussi en Iran que subsiste une mémoire encore relativement vive, celle d'une éphémère république kurde dans les années 40.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Elle a subsisté pendant 12 mois, de janvier à décembre 1946, la République de Mahabad dans le nord-ouest de l'Iran, dirigée par le fondateur du PDKI, donc ce parti dont on parlait tout à l'heure, et qui demeure un symbole fondateur du nationalisme kurde. Bonjour Boris Jam.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Montpellier, Paul Valéry, auteur notamment du récent Que sais-je sur les Kurdes. Quel est d'abord le contexte iranien et régional dans lequel va naître cette République de Mahabad en janvier 1946? Qu'est-ce qui attise le désir et crée l'opportunité de créer cet État kurde?
Alors, on peut remonter très tôt, en fait, dans l'histoire, au sortir de la Première Guerre mondiale. Il y a déjà une situation, on va dire, d'agitation dans l'espace transfrontalier kurde, hein, donc essentiellement entre l'Irak et l'Iran, hein, un espace transfrontalier qui est extrêmement poreux, où voilà, il y a des acteurs, hein, il y a des expériences fortes qui peuvent être liées à des personnalités, des familles qui sont actives, qui peuvent se lier avec des intellectuels qui commencent à être imprégnés de nationalisme kurde ou de kurdisme, qui sont aussi imprégnés, il faut aussi le souligner, par des formes de vision un peu socialisante, etc., qui mettent en rupture les communautés kurdes avec les États qui sont en formation dans la région après le démembrement de l'Empire ottoman, et la constitution, par exemple, d'un mandat en Irak, et une situation aussi qui voit l'affaiblissement des structures centrales de l'État iranien, hein, cet État iranien qui, à partir des années 20, devient une sorte de condominium britannique, hein, pour ce qui est des zones du sud du territoire, et soviétique pour ce qui est du nord, hein, et c'est donc sous l'influence soviétique que va pouvoir naître cette expérience de la République de Mahabad. Effectivement, la République de Mahabad, elle est officiellement créée en 1946, mais dès 1941, on a une situation d'autonomie dans cette région, hein, suite à la destitution
du Shah.
Du Shah.
Le père de Mohammad Reza Pahlavi en 41, il est destitué et remplacé assez vite quand même par son fils, mais ça crée une forme de vacance du pouvoir, un vide dont les Kurdes se saisissent.
Absolument, hein, et donc il y a toutes ces expériences, hein, qui sont plus ou moins malheureuses de chefs tribaux qui ont pu établir leur domination sur certaines zones du Kurdistan, qui vont se catalyser, hein, dans l'expérience d'abord d'une association partie, hein, qui s'appelle le Komalai Jianawai Kurd, hein, qui est donc l'ancêtre du PDK, hein, dont on a évoqué le nom juste à l'instant. Et à la tête de cette association, il y a un personnage qui s'appelle Qazi Mohammad, hein, et son nom Qazi Mohammad est parlant. Qazi, ça veut dire le juge, hein, c'est un juriste. C'est un intellectuel plutôt traditionnel, hein, religieux, hein, et ce personnage s'entoure de gens qui appartiennent à sa classe, de gens qui appartiennent à sa tribu aussi, à des Dekburi, et d'une confédération, on va dire, de tribus qui alors par exemple voilà, il y a cette intervention et cette influence très forte de la famille Barzani, hein, du grand clan Barzani qui a instigé plusieurs révoltes en Irak dans les années 20 et 30, et qui vont se rallier au moment de la déclaration de la
République de Mahabad.
De l'indépendance de Mahabad à la République.
Donc un président Qazi Mohammad, donc juriste, nous disiez-vous, un chef militaire venu d'Irak, Mustafa Barzani, et on parlera bien sûr très longuement des Barzani dans notre émission de demain sur les Kurdes d'Irak, aussi des non-Kurdes séduits par ce projet marxiste-léniniste, si j'ai bien compris, il y avait aussi des non-Kurdes qui rejoignent le projet.
Non, pas de, non. Alors, c'est plutôt des intellectuels kurdes marxistes qui, hein, souvent, alors des intellectuels justement qui appartiennent pas à la classe des intellectuels traditionnels, ou qui ont des fonctions qui peuvent avoir des fonctions dans la judicature ou dans les lieux religieux, hein, des poètes, etc., ou des gens qui ont une vision un petit peu moderniste. Alors Je dois nuancer, hein, l'influence c'est évidemment le nationalisme kurde qui va dominer au sein de la République de Mahabad, avec on peut dire que l'influence du marxisme-léninisme peut intervenir dans le fait que on a une vision pas du tout égalitariste, mais en tout cas un petit peu horizontale de ce que doit devenir le peuple kurde. Mais par exemple, les tentatives de mettre en place une redistribution agraire n'ont pas du tout fonctionné au sein de la République Mahabad, par exemple.
Alors, on sait, Borijam, pardon, le temps file, on arrive bientôt à la fin de cette émission, on sait que les soviétiques, qui sont encore très présents dans le nord de l'Iran, au départ, parrainent cette République République, puis se retire, délègue la gestion du dossier kurde à l'Azerbaïdjan, qui n'a aucun intérêt à voir se consolider une autonomie kurde. L'existence de cette République est éphémère. Elle est créée en janvier 46, elle tombe en décembre, quand les troupes iraniennes entrent dans Mahabad. Razim Mohammad est pendu sur la place principale. Beaucoup de Kurdes, y compris parmi les responsables politiques et militaires, s'en vont vers le Caucase. Quelle mémoire aujourd'hui subsiste de ce très éphémère État kurde, Boris Jam?
Bien sûr. Alors, bon, il y a énormément de choses, mais l'expérience en elle-même, elle est importante parce que évidemment, au centre de la création de la République de Mahabad, il y a la mise en place d'un drapeau, il y a un hymne national qui se diffuse, il y a la figure de ces Peshmerga, de ces combattants kurdes, hein, qui vont au devant de la mort, qui sont mis au centre de la construction de la République de Mahabad. Évidemment, pas aujourd'hui, mais jusqu'à dans les années 60, il y a une influence très forte, effectivement, du soviétisme, en tout cas l'influence de l'URSS sur la carte kurde à un niveau géopolitique. Et il y a évidemment une mythologie, parce que la chute de la République de Mahabad entraîne tous ces drames personnels et collectifs. Par exemple, le départ et la fuite, la longue marche des Peshmerga, surtout dans l'entourage de Barzani, qui vont rejoindre la frontière soviétique, hein, et qui vont donc il y a la création d'un imaginaire avec des héros, des martyrs, et ça c'est extrêmement important pour la perpétuation d'une idée nationale kurde. Hein, et pour conclure, je vous indique que dans les manuels scolaires kurdes au sein de la région autonome du Kurdistan d'Irak, hein, sur certains manuels scolaires, la page de garde, c'est une photo de Razim Mohammad entouré de ses ministres et à côté de Mollah Mostafa Barzani.
Merci Boris Jam. Le Peshmerga, le mot que vous avez employé d'ailleurs, vient de cette époque, ainsi que le drapeau kurde. Merci beaucoup Boris Jam d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Que sais-je sur les Kurdes et que vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, Paul Valéry. Vous avez écrit de nombreux autres ouvrages par ailleurs sur les Kurdes. Peut-être un tout petit mot, Sarah Bagheri, vous l'étudiez à l'école, vous aussi, cette république, parce que vous êtes vous-même kurde d'Iran.
Alors, à l'école, non, c'est interdit. Déjà, à l'école, à la fois, on n'a pas été éduqué, grandi à la langue maternelle, donc c'était interdit d'éduquer en kurde. Et puis aussi, l'histoire qu'on raconte et on apprend aux élèves, c'est une histoire écrite depuis le centre de l'Iran, donc dedans, on ne parle pas du tout de cette histoire qu'il y a des autres peuples dans le pays qui sont aussi leur propre histoire de lutte et leur propre subjectivité politique. Non, pas du tout.
En tout cas, c'est bien à cette époque, en 46, que se structurent les premières formes modernes de mobilisation kurde en Iran. Et je vous remercie beaucoup toutes les deux d'avoir été avec nous pour en parler. Sahar Bagheri, docteur en sciences économiques et chercheuse au laboratoire IRIS de l'Université Sorbonne Paris-Nord et de l'EHES. Merci beaucoup Sarah Guillemet également, qui étiez avec nous depuis ici Occitanie à Toulouse, et je remercie d'ailleurs Patrice Lecomte de vous avoir accueilli. Vous avez réalisé avec l'anthropologue Leïla Porcher le film Je n'ai plus peur de la nuit, où vous suiviez donc deux femmes kurdes dans un campement du parti Komala dans les montagnes entre l'Irak et l'Iran. Votre documentaire est à nouveau disponible, on peut le regarder, nous mettons le lien sur la page de Culture Monde sur le site de France Culture. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
La tentaculaire affaire Epstein fait à nouveau la une des journaux, Catherine Dutu, après la publication d'une masse de nouveaux documents.
Plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos et 180 000 images publiées par le ministère de la Justice vendredi aux États-Unis. Les journaux prennent le temps d'analyser ces documents, de faire le tri entre des courriels incriminants et la simple mention d'un nom qui n'est pas une preuve de culpabilité. Mais ce qui est sûr, souligne Politico et le Washington Post, c'est que l'étendue des documents publiés révèle l'immense réseau de Jeffrey Epstein, ce criminel sexuel américain condamné en 2008 et retrouvé pendu dans sa cellule de New York en 2019, avant son procès. Son influence s'étendait au monde politique, diplomatique, de la tech aussi, alors même que les enquêtes s'accumulaient contre lui et son système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures, rappelle Politico. Ce qui explique aujourd'hui toute une série de démissions en Europe de personnalités qui ont fréquenté ce prédateur sexuel. En Slovaquie, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Miroslav Lajčák, a été forcé d'abandonner son poste actuel de conseiller du Premier ministre Robert Fico, annonce le journal slovaque Denník N, alors que Miroslav Lajčák avait affirmé jusqu'ici n'avoir eu des liens que professionnels avec Jeffrey Epstein. D'après un échange de SMS consulté par la BBC datant de 2018, le criminel sexuel avait promis des femmes aux Slovaques, à l'époque chef de la diplomatie de son pays. Il a déclaré hier soir sur Radio Slovensko qu'il se sentait bête. Au Royaume-Uni, Peter Mandelson a démissionné, lui, du parti travailliste pour ses liens avec Epstein après sa condamnation. Et la pression monte, note le Guardian et le Times, pour que cet ancien commissaire européen au commerce, ancien ministre aussi de Tony Blair, quitte la Chambre des Lords aujourd'hui. Il avait déjà été démis de ses fonctions d'ambassadeur à Washington en septembre dernier. Et puis en France, Caroline Lang, la fille aînée de Jack Lang, a démissionné, elle, de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma après la révélation de liens d'intérêt avec Epstein, notamment pour une transaction immobilière offshore au Maroc et une société fondée dans un paradis fiscal, précise Mediapart, Le Monde et le journal suisse Le Temps.
Les familles royales de Norvège et de Grande-Bretagne font également face à des critiques croissantes.
Une photo publiée vendredi dernier d'Andrew Mountbatten-Windsor, le frère cadet du roi Charles III, le montre à genoux, au-dessus d'une jeune femme ou d'une jeune fille, allongée, elle, sur le sol, comme inerte, explique le Télégraphe. Il est temps qu'Andrew dise toute la vérité sur ce qu'il sait, titre The Independent. C'est une obligation morale pour les enfants victimes de violences sexuelles. Son ex-femme, Sarah Ferguson, est également sous le feu des projecteurs pour avoir reçu de l'argent d'Epstein, ajoute le New York Times, et pour avoir maintenu des relations amicales avec lui des années après son inscription au registre des délinquants sexuels. Idem pour la princesse héritière de Norvège, Mette Marit, dont les échanges se montrent bien plus familiers et affectueux que ce que la cour royale avait prétendu jusque-là, analyse le quotidien Aftenposten. Une amitié avec Epstein qui pousse aujourd'hui la moitié des Norvégiens à refuser que Mette Marit ne devienne reine, selon un sondage publié par la chaîne TV2 et relayé par Aftenposten, alors que le fils de Mette Marit est jugé pour viol à partir d'aujourd'hui à Oslo. L'affaire Epstein éclabousse aussi Børge Brende, le président du Forum économique mondial de Davos, ancien ministre des Affaires étrangères norvégien. Il a échangé et rencontré à plusieurs reprises Jeffrey Epstein. J'aurais dû examiner son passé de plus près, regrette-t-il, cité par le média suisse Blick.
Et puis aux États-Unis, des liens ont été révélés ou confirmés.
Bill et Hillary Clinton viennent de capituler, titre le New York Times. Ils acceptent de témoigner sous serment devant la commission de la Chambre des représentants qui enquête sur l'affaire Epstein alors qu'ils étaient menacés d'outrage au Congrès pour leur refus de se présenter, précise le Washington Post. Epstein, lié à des démocrates mais aussi à des républicains comme Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, figure de la droite dure américaine. Des liens aussi avec le milliardaire Elon Musk, ajoute Politico. Elon Musk qui avait demandé à connaître quel jour avait lieu la fête la plus déjantée sur l'île d'Epstein. Allusion aussi à une soirée avec Donald Trump, indique le Washington Post. Et puis, selon des notes d'Epstein, Bill Gates, le milliardaire cofondateur de Microsoft, aurait eu des relations sexuelles extra-conjugales avec de jeunes femmes russes. Il aurait même cherché à se procurer des médicaments suite à cela. Totalement faux, répond un représentant de Bill Gates au New York Times. Quant au ministère américain de la Justice, il l'a répété dimanche sur CNN, il n'en n'entend pas lancer de nouvelles poursuites après la publication de ces nouveaux documents.
The review that we had done before concluded that there was no such information, and that's where we remain.
L'examen que nous avions effectué auparavant avait conclu qu'il n'existait aucune information pouvant mener à de nouvelles poursuites pénales. C'est là que nous en sommes restés, a déclaré sur CNN le ministre adjoint de la Justice Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump. Par ailleurs, des milliers de messages cryptiques liant Jeffrey Epstein à Vladimir Poutine ont été découverts dans les documents publiés vendredi dernier, si bien que le Télégraphe et Sky News en Australie se demandent si Epstein n'était pas un agent russe. Bref, beaucoup de questions, mais pour l'instant, peu de certitudes.
Merci Catherine Dutu.